France Culture.
Le journal Stanislas Vazac. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un nouveau guide suprême pour l'Iran, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide. Des milliers d'Iraniens lui ont prêté allégeance aujourd'hui à Téhéran. Nous serons sur place dans un instant. De son côté, la France propose une mission défensive pour libérer le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron, actuellement sur le porte-avions Charles de Gaulle, se défend de vouloir faire la guerre à l'Iran. Avec Boris Loumagne, nous verrons à quoi pourrait ressembler cette mission défensive qui suppose des moyens militaires conséquents. En France, le prix du gazole franchit la barre des 2 euros le litre. Le gouvernement promet 500 contrôles dans les stations-service pour éviter les abus. Le reste de l'actualité est dominé par la campagne des élections municipales. Nous serons à Strasbourg dans ce journal. Strasbourg où l'ancienne maire socialiste Catherine Trottmann rêve de reprendre la ville à l'écologiste Jeanne Barzéguian. Il n'est pas content, Donald Trump, pas content de l'élection de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême iranien en lieu et place de son père Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine sur le régime des Mollahs. Le président américain exprime son mécontentement ce soir dans le journal conservateur le New York Post. Lui qui a d'ores et déjà promis que le successeur de l'ayatollah Khamenei ne tiendrait pas longtemps. Malgré ces nouvelles menaces, des milliers d'Iraniens favorables au régime se sont rassemblés aujourd'hui à Téhéran. On retrouve Siavosh Ghazi dans la capitale iranienne.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Enrelab avec de nombreux drapeaux iraniens et des portraits de l'ayatollah Mojtaba Khamenei, mais aussi de son père. Pour les manifestants, il s'agit de faire allégeance au nouveau guide suprême alors que le pays est en pleine guerre, comme l'affirme Zoré, une iranienne de 30 ans.
Nous sommes là pour faire allégeance à notre nouveau guide, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il doit continuer la voie de son père. Nous nous opposons à toute oppression. Personne n'a le droit d'intervenir dans les affaires de notre pays.
Majid, un jeune iranien de 22 ans, est également là pour les mêmes raisons.
Nous sommes réunis ici pour notre imam, Seyed Mojtaba Khamenei. Notre seule demande, c'est qu'il fasse tout ce qui est possible pour la destruction de l'oppression mondiale des États-Unis et d'Israël.
Au moment même où la foule était réunie sur cette place, l'aviation américaine et israélienne bombardait les quartiers périphériques de la capitale. Mais pour les gens rassemblés sur la place Enrelab, la victoire est proche.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran pour France Culture. Effectivement, au 10e jour de la guerre, le régime iranien plie sous les bombes mais ne rompt pas. Un deuxième missile parti d'Iran a pénétré aujourd'hui l'espace aérien turc. Il a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN dont fait partie la Turquie. Téhéran est aussi soupçonné d'avoir envoyé des drones sur une base aérienne britannique à Chypre. Et justement, Emmanuel Macron était sur l'île cet après-midi pour exprimer la solidarité de la France avec ce pays membre de l'Union européenne. Une semaine après avoir évoqué une coalition pour libérer le trafic dans le détroit d'Ormuz, il a avancé l'idée d'une mission d'accompagnement pour les navires pétroliers. Marie Mollet, vous suivez le déplacement d'Emmanuel Macron à Chypre. Cette mission viserait à défendre la liberté de navigation dans le détroit.
Oui, une mission purement défensive, d'accompagnement, comme le dit Emmanuel Macron, sur le modèle de l'opération Aspides en mer Rouge, une coalition de plusieurs pays européens qui se chargent d'escorter certains pétroliers pour les mettre à l'abri des outils du Yémen, par exemple. Cette future mission vise simplement à garantir, dit-il, la liberté de circulation.
Une mission purement défensive qui doit se préparer avec des États européens et non européens et qui a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz.
Mais c'est bien toute la question. Qui, quel pays pourrait participer? L'Inde serait intéressée, d'après une source diplomatique. L'Italie, plus frileuse, malgré la frégate qu'elle a dépêchée en Méditerranée. Et puis quand, pour l'instant, ça bombarde, on ne peut pas rouvrir le détroit, concède-t-on à Paris. Qu'importe, Emmanuel Macron tente de se poser, encore une fois, comme chef de file, force de proposition. Il a détaillé les moyens militaires français qui seront déployés dans la région.
8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et notre porte-avions.
Avec pour seul but, dit-il, la désescalade régionale. Emmanuel Macron qui tente de maintenir sa position d'équilibre fragile. Ce n'est pas notre guerre, répète-t-on au sein de l'exécutif. Le président français est pourtant cet après-midi sur le porte-avions Charles de Gaulle, bien arrivé pour sécuriser la Méditerranée orientale.
Marie Mollet avec Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors le président français se défend donc de vouloir faire la guerre à l'Iran pour rétablir la circulation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Il n'empêche empêche, la France se déploie des moyens conséquents dans la région, comme vient de nous l'expliquer Marie Mollet. Boris Loumagne, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors, comment cette opération pourrait se dérouler sur le plan strictement militaire?
Alors, concrètement, il s'agirait d'accompagner les tankers et les porte-conteneurs grâce à des moyens aériens et maritimes, donc des avions de chasse et des frégates françaises, pour intercepter les missiles et les drones Shahed iraniens, simplement intercepter et non frapper les lanceurs en territoire iranien. C'est la posture défensive dont parlait Emmanuel Macron. La France et ses alliés de la coalition internationale pourront également aider les tankers à se frayer un chemin dans ce détroit miné avec des mines sous-marines. Voilà pour la méthode, mais le calendrier de l'opération n'a pas été précisé par le président français. Il s'est simplement contenté de dire que la mission commencerait, je cite, « après la sortie de la phase la plus chaude du conflit », donc probablement pas avant plusieurs semaines.
Et cette mission, Boris, pourrait ressembler à ce qui se fait déjà en mer Rouge pour protéger les navires des menaces des Houthis.
Oui, c'est l'opération Aspides mise en place en 2024 par l'Union européenne, avec toutefois deux différences majeures. En termes de puissance de feu, tout d'abord, les milices Houthis sont moins bien équipées que les gardiens de la révolution iranienne. Et puis la mer Rouge est une vaste zone, tandis que le détroit d'Ormuz ne fait qu'une dizaine de kilomètres de large. Tous les bateaux qui tentent de le franchir sont des cibles faciles pour les Iraniens. Téhéran a d'ailleurs déjà frappé une dizaine de navires en quelques jours.
Éclairage signé Boris Loumagne de la rédaction internationale de Radio France. Cette guerre dont on ne voit pas le bout pour l'instant frappe toute l'économie mondiale, à commencer par les pays très dépendants du pétrole et du gaz produits dans le golfe Persique. Le détroit d'Ormuz paralysé, c'est le baril de pétrole qui flambe, 102 dollars tout à l'heure pour le Brent qui fait référence sur le marché. En France, le prix du gazole a franchi un cap symbolique aujourd'hui. 2 euros le litre en moyenne, plus 28 centimes depuis le début de la guerre. La hausse est moins forte pour le sans-plomb 95, 1,83 € en moyenne en début d'après-midi. Face à la crainte d'une flambée des prix qui pourrait profiter aux distributeurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé hier soir 500 contrôles en 3 jours dans les stations-service. Bonsoir Lou Momège.
Bonsoir.
Une mesure qui pour certains apparaît davantage comme un effet de manche pour rassurer la population.
Oui, c'est ce que dénoncent des consommateurs, mais aussi la CGT du service de la concurrence, consommation et répression des fraudes. La DGCCRF doit assurer ses contrôles à la pompe. Le dispositif existe déjà. Plusieurs centaines de contrôles sont réalisés chaque année. Là, le gouvernement en a annoncé 500 entre aujourd'hui et mercredi sur les quelques 10 000 stations-service en France. 200 agents sont mobilisés sur tout le territoire. Ils vérifient que les distributeurs affichent bien les mêmes prix sur leurs panneaux à l'entrée des stations et sur le site de référence prix-carburant.gouv.fr. Si ça ne concorde pas, alors il peut y avoir une amende. Le gouvernement assure que la concurrence entre les stations garantit une autorégulation du marché, car les distributeurs sont libres de fixer leurs prix, et c'est bien le problème pour Jean-Philippe Simon, secrétaire général à la CGT de la DGCCRF.
On a beaucoup d'appels téléphoniques de consommateurs en ce moment qui nous disent « mais qu'est-ce que vous allez faire contre les prix abusifs ?» Un prix abusif, dans le cadre de la liberté des prix, ça ne veut rien dire. C'est quoi le niveau abusif? Est-ce que abusif, c'est 10 euros le litre? Ou est-ce que c'est 2 euros le litre? Donc ça, cette notion-là, si un gérant de station-service propose son carburant à 10 euros et l'affiche, on ne peut rien dire.
Selon Jean-Philippe Simon, il faudrait plutôt plafonner les prix du carburant pour protéger le consommateur. L'autorité de la concurrence peut adopter un tel décret en situation de crise, mais l'option n'est pas sur la table pour l'instant. Et la dernière fois que la France a plafonné le prix de l'essence, c'était en 1990, au début de la première guerre du Golfe.
Lou Momège, merci. Si la France refuse pour l'instant de bloquer les prix du carburant, deux pays européens vont prendre cette mesure, la Croatie et la Hongrie. Dès demain, les prix de l'essence et du gazole y seront plafonné. Et la Russie est déjà en embuscade pour soulager l'Europe malgré l'embargo lié à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine se dit prêt à fournir en hydrocarbures les pays européens qui en feront la demande, à condition qu'il se déclare en faveur d'une collaboration durable et stable avec Moscou, ajoute le président russe. Il existe un lien entre le cancer du sein d'une infirmière de nuit et ses conditions de travail nocturne. Voilà la décision très importante rendue la semaine dernière par le tribunal administratif de Marseille. Après 7 ans de combat, Sylvie Pioli, infirmière de nuit pendant 25 ans à l'hôpital de Martigues, a obtenu gain de cause. Son cancer du sein est bien une maladie professionnelle. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un médecin de son établissement qui le premier avait alerté Sylvie Pioli.
Oui, et ce médecin a en effet expliquer à Sylvie Pioli les liens entre son cancer développé en 2014 et ses 140 nuits par an travaillées à l'hôpital, une vie à l'envers des autres, sans toujours suffisamment de sommeil, mais surtout une vie avec moins de mélatonine, explique-t-elle.
La nuit, on fabrique une hormone qui s'appelle la mélatonine et son pic est entre 2h et 5h du matin et la lumière artificielle empêche sa sécrétion. On sait que la mélatonine, c'est un puissant anticancéreux, quoi.
Il y a plus de 25 études scientifiques sur le sujet, dont l'étude française Cécile, qui toutes montrent un risque accru de 30% pour celles qui travaillent la nuit, poursuit Sylvie Pioli, soutenue par la CFDT, notamment le groupe des mineurs de Lorraine de Frémin-Mellerbach, qui l'ont contactée quand elle a créé son association Cycle au sein en 2016. L'infirmière se lance dans une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'expertise en contre-expertise. Il faudra donc 7 ans pour que la justice, par l'intermédiaire du tribunal administratif de Marseille, lui donne gain de cause. Un combat de longue haleine qu'elle a tenu pour toutes les femmes qui seront concernées.
La suite de mon combat, on va dire, c'est que le cancer du sein soit dans le tableau des maladies professionnelles. C'est extrêmement important afin que les femmes ne subissent pas tout ce que j'ai subi pendant 7 ans. On décidera de suite si cette femme, elle peut prétendre à la maladie professionnelle ou pas. Elle ne va pas attendre 7 ans et passer entre les mains de tout le monde comme je l'ai fait.
Et en attendant la modification de ce tableau des maladies professionnelles, la retraitée va continuer à sensibiliser sur ce sujet, sur son vélo, puisqu'avec son association Cycle au sein, elle mène de multiples actions à la rencontre des citoyens et des politiques de tous bords.
Anne Fauquemberg, merci. L'hôpital de Martigues a 2 mois pour faire appel ou non de cette décision du tribunal administratif de Marseille. C'est un nouveau revers judiciaire pour Nicolas Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris a refusé la confusion des peines que l'ancien président avait sollicité entre ses 2 condamnations dans les dossiers Big Malion et Bismuth. Conséquence, il devra donc purger sa peine de 6 mois ferme aménageable. Nicolas Sarkozy pourrait être contraint de porter à nouveau un bracelet électronique. Ce revers intervient une semaine avant son procès en appel dans le dossier du supposé financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Les explications de Florence Turme.
La confusion des peines, c'est un dispositif prévu dans le code pénal sous certaines conditions. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy avait demandé celle des 2 peines définitives qui figurent désormais sur son casier judiciaire. Il y a d'abord l'affaire dite des écoutes ou l'affaire Bismuth, le nom d'emprunt utilisé par l'ancien président pour communiquer avec son avocat. 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence, auxquels sont venus s'ajouter les 6 mois fermes de l'affaire Big Malion pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Là encore, Nicolas Sarkozy était allé jusqu'au bout des procédures possibles, mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. À 71 ans, il souhaitait donc faire fusionner les peines en question pour ne pas avoir à exécuter la seconde après avoir purgé la première sous forme d'un bracelet électronique, mesure inédite pour un ancien chef de l'État, bracelet électronique qu'il a porté durant 3 mois au cœur du procès libyen début 2025. Il est désormais susceptible de s'en faire poser un autre pour sa condamnation dans le dossier Big Malion. Il peut toutefois faire appel de ce refus de confusion des peines, mais c'est une autre échéance judiciaire aux enjeux encore plus écrasants qu'il attend désormais. Le procès en appel du présumé financement libyen de la campagne électorale de 2007 débute dans une semaine, jour pour jour. En première instance, le tribunal avait prononcé une peine de 5 ans ferme avec exécution provisoire qui avait conduit Nicolas Sarkozy derrière les barreaux durant 3 semaines à la prison de la Santé.
Florence Turme, spécialiste des questions de justice à la rédaction de France Culture. La campagne des élections municipales entre dans sa dernière semaine avant le premier tour dimanche prochain 15 mars du côté de la gauche hors LFI. Les socialistes, les écologistes et les communistes font bien souvent liste commune, sauf dans certaines grandes villes et notamment à Strasbourg. Dans la capitale alsacienne, la maire sortante écologiste Jeanne Barzéguian affronte l'ancienne maire socialiste Catherine Trottmann en poste dans les années 90, puis au début des années 2000, après avoir été la ministre de la Culture de Lionel Jospin. Un duel fratricide à gauche qui donne quelques espoirs à la droite strasbourgeoise. C'est un reportage d'Adrien Toffoli.
Le marché de la place Broglie, en plein centre historique de Strasbourg, là où a été entonnée pour la première fois la Marseillaise en 1792 et où l'on entend aujourd'hui une toute autre musique.
Bonjour madame, on se connaît depuis longtemps.
Reconnue dans la foule, la candidate socialiste Catherine Trottmann, un bilan politique solide à Strasbourg, maire entre 1989 et 1997 et 2000-2001, celle qui a relancé l'incontournable tramway. Âgée de 75 ans aujourd'hui, elle savoure sa popularité retrouvée.
Je pense qu'il y a une sorte de relation affective et de fidélité aux Strasbourgeois et cette fidélité est réciproque.
Déjà candidate en 2020, elle tente un nouveau retour motivé, dit-elle, par la déception des Strasbourgeois.
Ce que j'ai entendu des habitants, c'est un, on veut être respecté et écouté, on veut participer aux décisions. On nous l'a promis, ça n'a pas été fait, on a été méprisé. Deuxièmement, on se sent en insécurité dans une ville qui est de plus en plus compliquée à vivre quotidiennement. Troisièmement, ce qu'on appelle, nous, le pouvoir de vivre, c'est plus que le pouvoir d'acheter. C'est-à-dire ce qui fait partir des familles monoparentales, à l'extérieur de Strasbourg, parce que la vie est trop chère.
Catherine Trottmann est très vite devenue l'une des plus féroces opposantes à l'écologiste Jeanne Barzéguian, à qui elle reproche une gouvernance sans partage.
J'étais parfois mieux entendue par des collègues d'autres bords politiques à droite que par une municipalité qui se prétendait à gauche.
Un positionnement qui la donne pour l'instant en tête au premier tour dans plusieurs sondages.
Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'étonnent de sa candidature en me disant « oui, ça a été une bonne maire il y a 30 ans, mais qui ne comprennent pas forcément la démarche dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. »
Jeanne Barzéguian, candidate à sa propre succession.
Et surtout qui ne comprennent pas le glissement à droite qu'elle a effectué ces dernières années. Aujourd'hui, elle nous dit qu'il faut remettre de la voiture en ville, qu'il faut déconstruire les pistes cyclables. Elle s'oppose à des projets d'hébergement ou de logement. Enfin, j'ai du mal à comprendre et je crois que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois aussi.
On la retrouve sur un autre marché du centre, à côté du musée d'art moderne.
Ça va ?
Interpellée par un habitant qui n'a qu'un seul reproche.
Je pense que vous n'êtes pas assez offensive. Ça manque de pédagogie dans votre campagne.
C'est pour ça qu'on a beaucoup au début communiqué sur le bilan.
Avec le soutien de Place Publique, Génération ou encore du Parti communiste, elle espère avoir le temps d'un second mandat pour pouvoir démontrer la bonne gestion des écologistes à la tête d'une grande ville.
C'est la mise en place de cantines de quartier, c'est le renforcement de la part du bio et du local pour nos cantines scolaires, c'est continuer de créer des maisons urbaines de santé, bien sûr continuer de végétaliser la ville. C'est des questions qui sont à la fois des questions écologiques, des questions économiques et de pouvoir d'achat et des questions sociales.
Préoccupation partagée par la liste insoumise à qui elle laisse la porte ouverte pour un éventuel rapprochement au second tour. Figure de la droite à Strasbourg, Jean-Philippe Vetter, 46 ans, se frotte les mains.
Effectivement, la gauche aujourd'hui est divisée.
Lui aussi était déjà candidat en 2020 pour les Républicains, mais cette fois-ci, il compte bien sur le duel des gauches pour tirer son épingle du jeu.
Aujourd'hui, avec cette liste qui représente à la fois la société civile, mais aussi la droite et le centre, eh bien, nous sommes les seuls à porter un vrai changement. Et vous savez, dans la vie politique, il y a souvent des cycles. Eh bien, c'est un cycle qui est en train de se terminer. Ils pensent quasiment la même chose entre les socialistes et les écologistes, mais ils se disputent, notamment pour des raisons personnelles. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un projet de fond pour vraiment proposer ce vrai changement qu'attendent les Strasbourgeois.
Avec une potentielle petite réserve de voix également, celle de Pierre Jakubowicz, la liste Horizon Renaissance Modèle.
Le reportage d'Adrien Toffoli à Strasbourg. Les autres candidats déclarés dans la capitale alsacienne sont Virginie Joron pour le Rassemblement National, Florian Cobrine pour la France Insoumise, Clément Soubise pour le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, Louise Fèvre pour Lutte Ouvrière, Fahad Raja Mohamad pour le Mouvement Populaire Indépendant, Mohamed Silla pour la liste Utile pour Strasbourg, Neila Boudgata pour la liste Engagée pour Strasbourg et enfin Eva Lacotte pour la liste Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs. Sachez par ailleurs que France Culture vous proposera une soirée spéciale premier tour des municipales dimanche prochain 15 mars à partir de 19h30. Un mot du temps demain, toujours des averses sur le pourtour méditerranéen, du Languedoc à la Côte d'Azur en passant par la vallée du Rhône. Ailleurs, un ciel mitigé qui se partagera entre nuages et éclaircies. Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés en général. Demain après-midi, le thermomètre est en légère baisse entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck. À la technique ce soir, il y avait Dali Yar.